Éphésiens chapitre 4. On va pas lire le texte tout de suite, mais vous pouvez déjà chercher Éphésiens chapitre 4. On va continuer notre méditation, réflexion sur le thème du pardon. On avait commencé vendredi soir. Et puis on était parti sur un texte qui peut paraître étonnant, mais on était parti sur la situation de la chute. Adam et Ève ont chuté d'une situation idyllique. Ils se retrouvent dans une situation où tout est gâché. Et on avait vu la réaction de Dieu, la réaction de la femme, la réaction de l'homme. Et ce qui s'était suivi avec Dieu qui réhabille Adam et Ève, je dis bien réhabillé parce qu'il s'était fabriqué des vêtements avec des feuilles de figuier. Alors Dieu les réhabille en peau de bête. C'est à ce moment-là que Adam va appeler sa femme Ève, elle qui a tout cassé. Voilà que Adam va lui donner un nom qui est à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer, dispensatrice de vie, au lieu de lui donner un nom qui lui rappellerait sa faute, il lui donne au contraire une nouvelle identité par rapport à ce qui est devant. Et donc on s'était servi de ce texte de base pour montrer que le pardon dans la Bible est omniprésent. C'est comme le pointillé de toute la Bible et la première situation concrète de ce pardon se manifeste là à la Genèse. Et on a pris le temps quand même aussi d'évoquer un point, c'est qu'on ne peut pas parler de pardon si on n'évoque pas la notion de la colère. Et donc c'est le sujet qui va être un petit peu abordé ce soir, enfin qui sera le point central, pardonnez-moi, de ce soir. Parce que quand nous parlons de pardon, il y a donc un offensé, quelqu'un qui est blessé, et un offenseur, quelqu'un qui a eu l'impression ou qui véritablement a été blessé. Et on ne peut pas faire abstraction, on n'est pas des objets, on ne peut pas faire abstraction de la réaction. Parce que lorsque nous sommes blessés, nous réagissons. Et on ne peut pas évoquer le pardon en faisant abstraction d'une situation qui est là tout à fait normale, qui est la réaction à la blessure. Alors comment réagir à l'offense? Comment est-ce qu'il faut réagir lorsque nous sommes blessés? Comment nous devons réagir lorsque on a été offensé? Alors j'ai relevé trois réponses. La première réponse serait « Oh, laisse tomber, c'est rien, écrase, ça arrivera, c'est la vie. » Ok, pourquoi pas. Et encore, déjà dans certains cas, il est un peu difficile de répondre comme ça. Enfin, si quelqu'un marche sur le pied, on peut dire « Bon, c'est pas grave », mais il y a des situations beaucoup plus douloureuses où déjà dire à quelqu'un « Oh, c'est rien », nous-mêmes, on peut se sentir un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être très spirituel aussi. De présenter la chose comme ça. Mais si t'es dans le Seigneur, si t'es spirituel, tu les choses doivent te toucher, mais ne pas t'impacter. Tu dois être comme un roc. Tu dois être là solide et ne pas te laisser emporter ou toucher par la circonstance. Si t'es dans le Seigneur, tu dois être fort. Pourquoi pas. La deuxième réponse, qui serait un peu à l'opposé, pourrait se résumer en disant « Allez, vas-y, défonce-le, tu vas pas te laisser faire quand même, avec ce qu'il t'a fait. » Alors, cette voix peut venir de l'intérieur de nous, elle peut venir de l'extérieur. « Quoi? Tu te rends compte? Et toi, tu vas rester comme ça, les bras croisés, mais vas-y! Règle-lui son compte !» Et puis, je crois que la troisième réponse, qui sera notre fil conducteur, c'est qu'effectivement, nous devons être capables d'exprimer notre ressenti. mais ne pas chercher à rendre le mal pour le mal. Et c'est là l'équilibre biblique que l'on va voir ce soir. Cette théorie du « c'est rien, laisse tomber, écrase, il faut que tu supportes les choses sans rien dire » n'a absolument rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel. J'ai même envie de dire que c'est contre Dieu lui-même qu'on réagirait comme ça. Parce que étouffer nos sentiments, ce serait nier ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur. Parce que Dieu nous a créés avec des émotions. Dieu nous a créés avec des sentiments. Dieu a fait en sorte que nous soyons des êtres sensibles. Tel que Dieu l'est d'ailleurs. Lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a vu la catastrophe de la chute, la désobéissance, nous n'avons pas vu un Dieu qui a dit « Oh, ben, c'est pas grave, mes petits loups. Ah, vraiment, hein, je suis pas tôt. Hein. » Non. C'est lui-même qui a commencé à parler de malédiction. On sent qu'il y a là, dans l'expression de Dieu, une colère. Alors, on va redéfinir le mot, mais c'est peut-être le mot à la fois le plus choquant, mais le plus explicite. Il y a une agitation de cœur. Il marque la chose. On ne peut pas et nier les émotions. En fait, si on fait un parallèle, c'est comme avec le corps et les nerfs. Lorsque on met notre main sur une plaque très chaude, qu'est-ce qu'on fait ? Vous la retirez, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Et c'est une sécurité. Parce que si vous étiez « Non, non, je suis un homme, j'ai mal, mais je bouge pas. » La conséquence serait encore plus négative. Si je retire ma main, je peux être brûlé au premier degré et je vais vite cicatriser. Mais si je me dis « Non, je suis un homme, je ne veux pas pleurer, j'ai fait, je choisis, j'avais qu'à pas mettre ma main, maintenant j'assume. » Mais on dit « Mais t'es... » La personne va se brûler, mais il y aura des conséquences irréversibles. Et il en est exactement de même. Les nerfs sont au corps ce que les émotions sont à l'âme. Nous ne devons pas étouffer les émotions. Nous ne devons pas écraser les émotions. Nous ne devons pas dire « Oh non, non, c'est pas spirituel. » Ça... Et c'est là que je dis que c'est anti-spirituel que de vouloir étouffer les émotions. Car les émotions sont juste le reflet du ressenti de l'âme. Et ils doivent être reçus comme tels. Après, ils seront à canaliser, évidemment. C'est que de la même manière, on n'a pas besoin de hurler pendant 3 heures juste parce qu'on s'est brûlé. On peut dire « Oui, évidemment !» Mais après, il y a des gens qui sont capables d'exagérer, etc. Mais c'est apprendre à canaliser. Mais exactement de la même manière pour l'âme. S'il n'y a pas de réaction... Si on prend l'histoire de la main et de la brûlure, indéniablement, en disant « oui, il y a des conséquences irréversibles », eh bien, il en est exactement de même. Lorsque on retient, on étouffe les émotions, qu'on empêche que celles-ci soient exprimées, et avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire des conséquences irrémédiables. De quelles conséquences est-ce que je parle ? Il y a 2 grands dangers principaux à retenir les émotions, à éviter de les exprimer, à les étouffer, à les brider. La première, ça ne vient pas de moi, ça vient de tous les médecins. On risque de développer des maladies dites psychosomatiques. C'est-à-dire qu'à force d'intérioriser toutes les émotions, tôt ou tard, il faut bien qu'elles ressortent. Et c'est le corps qui réagit. Et là, il y a une ribambelle je ne fais qu'énumérer des choses connues par les médecins. L'asthme, les ulcères, l'hypertension, les colites, la migraine, la dépression et 3 petits points. Mais les quelques maladies que je viens d'évoquer, on sait qu'elles sont stimulées, développé au travers de toutes ces émotions que les hommes et les femmes de notre société enferment, enfouissent, étouffent. Et c'est le corps qui réagit par ces manières-là. Le deuxième grand danger qu'il y a à retenir, toutes ces émotions, et ben c'est que ces émotions, ces blessures, ces colères se transforment en haine. Qu'il y a une grande différence entre éprouver de la colère et développer de la haine. On peut avoir des situations où nous sommes en colère, c'est-à-dire que nous par rapport à une situation, nous, comme on dit, la moutarde monte au nez. Oh, mais c'est pas possible! Mais si ce « c'est pas possible » ne peut pas être exprimé et qu'il est retenu, alors on enfouit ça et ça se transforme en haine. Et finit par ressortir, tôt ou tard, parce que ça ressort toujours, hein, en réaction violente et souvent démesurée. Du coup, cette notion du... Alors j'ai appelé ça le pardon du silence. Oh, faut pardonner! Sans avoir eu un moment l'occasion pour l'offenser, de s'exprimer et d'exprimer sa souffrance, de mettre des mots sur ce qu'il a subi ou sur la manière dont il a subi les choses, qu'importe, c'est comme mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Un sparadrap sur une jambe cassée. C'est bien l'os qui est cassé, mais on va mettre un sparadrap. Ça y est, on a soigné. Maintenant, t'as plus mal, on t'a mis un sparadrap. Mais si, il y a la douleur qui est là, mais non, c'est pas grave. Maintenant qu'on a allumé le sparadrap, il faut qu'il y ait dans le processus du pardon cette étape qui est indispensable et qu'on ne doit pas nier, qui est celui de l'expression du sentiment. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'était deux sœurs en Christ qui s'étaient pris la tête alors qu'elles faisaient partie de la chorale. Pour moi, je voyais ça, mais vraiment au niveau de l'enfantillage. Alors, il y a eu quelques mots qui ont été échangés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça. Elles se parlaient plus, enfin... Je dis, allez, on se retrouve là, à la sortie, et puis je demande à l'une et à l'autre, bah, présentez vos excuses. Enfin, je n'avais pas parlé comme ça. Et moi, je pensais que c'était résolu. Mais non. J'avais mis un sparadrap sur une jambe cassée. Et quelques mois après, bah, la chose s'est envenimée. Parce que la personne qui se disait offensée, j'avais pas eu l'occasion. Enfin, ça me paraissait tellement superficiel que effectivement, je n'avais pas laissé le temps à ces personnes d'exprimer chacune leur souffrance intérieure, comment elles avaient vécu les choses. Du coup, il y a eu effectivement, superficiellement, un « je te présente mes excuses, d'accord, pardon, hein ?» Mais en fait, la jambe cassée, elle était cassée, l'os était cassé. Et moi, je m'étais juste contenté de réparer l'extérieur. Donc, il faut être conscient que dans la notion du pardon, la notion de colère, de ces sentiments qui sont là, ne doivent pas être mis de côté. Et cette réaction d'intériorisation du sentiment de colère est parfois véhiculé par une mauvaise compréhension de la colère. On pourrait dire par certains, mais la colère c'est pas bien, la colère c'est charnel, la colère c'est une réaction humaine, on doit pas être en colère, quelqu'un qui est en colère, il a un mauvais cœur. Et là on arrive au Éphésiens chapitre 4. Verset 26. Alors on peut même commencer à partir du verset 25 même. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Il y a beaucoup de passages sur la colère. Mais j'ai voulu retenir ce passage-là. Parce que l'on voit bien là la place de la colère dans le développement. Il nous est bien dit renoncer au mensonge et que chacun parle avec vérité. Ça veut dire quoi de parler avec vérité? Mais ça veut dire parler en toute simplicité, mais avec toute honnêteté. Si Lucien que j'ai en face de moi, un jour me fait du mal, ou inversement, on va faire ça, hein. Si un jour je fais du mal à Lucien, il faut que Lucien se sente la liberté de me parler en toute vérité, de me dire, oh Benoît là, le jour où t'as fait ça là, ça m'a fait mal au cœur. Et c'est ça des rapports fraternels, c'est être capable de parler selon la vérité à son prochain. Et donc la suite est tout aussi cohérente. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le péché, ce n'est pas le fait de se mettre en colère. Le péché, c'est de garder ce sentiment de colère jusqu'au soir et de encore garder ça et de se dire, punaise, là je m'y attache à cette colère. Et là, il y a la possibilité, il y a une situation propice au diable de transformer cette colère normale, qui est le fruit d'une réaction, en un sentiment qu'il va utiliser pour être quelque chose de destructeur. Mais la réaction d'être offensé et de réagir par la colère, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est même sain, S-A-I-N. C'est normal. Quelqu'un qui serait un offensé, qu'on l'humilie, qui serait blessé, mais qui serait complètement stoïque, qui dit non, moi ça ne me touche pas. C'est qu'il est en train de se nier lui-même. Il écrase sa propre personnalité. Et ce n'est pas bon. Parce que l'âme réagit, nos nerfs réagissent. Et donc c'est là qu'il y a cette importance de réaliser qu'il y a deux types de colère. Une saine, une normale. Une qui est spontanée et qui réagit aux ressentis, aux blessures. Et une qui effectivement qui est mauvaise. Celle qui est mauvaise, c'est celle que le diable, lui, va exploiter. Et cette mauvaise colère, c'est celle qui va plus loin. C'est celle qui va chercher à rendre le mal pour le mal. C'est celle qui va chercher à rendre blessure pour blessure. C'est celle qui va nous pousser qui va nous animer à agir. Alors que nous ne sommes pas appelés à agir sur le coup de la colère ou par la colère. Nous sommes appelés à agir selon l'esprit. Et donc, heureusement, et une fois de plus, nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit, dont je vous rappelle deux caractéristiques dans Galates chapitre 5, verset 22. 1. La patience. Et 2. La maîtrise de soi. Donc c'est tout à fait normal en tant que chrétien né de nouveau de réagir et de ressentir de la colère face à un événement. Mais on va demander au Seigneur, apprends-moi Seigneur à ne point réagir sur la colère. Mais non pas non plus à me culpabiliser, c'est tout à fait normal que j'ai de la colère qui s'anime par rapport à une situation. Mais je veux réagir selon ta grandeur, ta patience. D'ailleurs, la Bible nous parle souvent de la colère de Dieu. Souvent. Et pourquoi est-ce que la Bible nous parle de la colère de Dieu? Parce que face au péché, Dieu qui est saint, saint, saint ne peut pas rester indifférent. Face au péché, Dieu réagit avec colère. Mais on parle bien de la bonne colère. C'est-à-dire qu'il ressent quelque chose, il ressent une aversion. Il ressent quelque chose qui le rejette. Mais la Bible nous dit bien que Dieu ne nous juge pas selon nos péchés. Heureusement que Dieu use de patience. D'ailleurs, il nous est dit qu'il est lent à la colère. Alors, est-ce que c'est une opposition? Non! Dieu a de la colère. C'est-à-dire qu'il est animé de ce sentiment de réaction, comme nous le sommes lorsque nous sommes blessés ou accusés faussement, ou d'autres situations d'humiliation qui nous poussent à réagir et on voudrait sortir les griffes et hurler. Et ça, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment. Mais nous devons être comme Dieu, être lent à réagir, ne pas manifester ce genre de, d'élan spontané. Et si vraiment c'est trop dur en nous, alors il faut que l'on demande l'assistance du Saint-Esprit pour dire « Non Seigneur, je ne veux pas me laisser porter à ça. » Quelque chose qui est quand même très important. Et nous aurons aussi l'occasion de développer ces points-là. C'est pour ça qu'il nous sera parlé de confession, qu'il sera parlé de repentance, qu'il sera parlé que la Bible dit que si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, il doit aller le voir. C'est qu'il y a à un moment une nécessité de poser des mots, de poser des mots sur les choses. On ne peut pas juste dire « t'as de la colère, désolé » et puis « non, à un moment, faut poser les mots ». Et le fait justement de pouvoir exprimer la colère, exprimer non pas la colère au sens de « j'ai envie de te dire et de te jeter tout ça à la figure », non, mais de mettre des mots sur le sentiment, sur les sentiments que l'on éprouve, évite justement d'étouffer. Et donc, au lieu d'intérioriser toute cette souffrance, toutes ces blessures, ben, le fait de les extérioriser, de mettre des mots dessus, nous permettent de sortir ce mal de nous et d'en être affranchis. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, enfin, ou la prochaine réunion, je ne sais pas encore trop, sur, comme qui a pour titre le pardon libérateur. Parce qu'effectivement, il y a un moment dans cette situation de colère ressentie, soit un enfermement, soit un accès à la libération. Et c'est exactement ce que Dieu veut, que nous soyons être libres même de ces situations de colère et de blessures intérieures. Amen. Que le caractère de Christ continue de grandir en nous. Mais cela ne signifie pas que nous devons être insensible à tout, au contraire, Dieu est sensible à tout, mais il nous donne également de son esprit de grâce, d'amour, de patience, de maîtrise de nous, afin que nous ayons la meilleure des attitudes face aux circonstances de la vie. Amen.